Au micro, Idrissa Sédoudia. Bonjour, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Une crise alimentaire d'envergure est à redouter au Niger, dans la région de Tillaberi, proche du Mali, où près de 600 000 personnes sont déjà exposées à l'insécurité alimentaire, indique l'ONU à Niamey. L'immense et instable région de Tillaberi, riveraine de la zone des trois frontières Niger, Burkina Faso et Mali, est le théâtre depuis 2017 d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. L'insécurité et les attaques récurrentes des éléments présumés de groupes armés non étatiques ciblant les agriculteurs et les populations civiles auront cette année de graves répercussions sur la situation alimentaire déjà précaire de plusieurs milliers de ménages vivant dans la région de Tillaberi, prévient OCHA dans un rapport transmis à l'AFP. Investiture ce lundi du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour un nouveau mandat de 5 ans, mais cette reconduction survient dans un contexte troublé par le conflit dévastateur dans le nord du pays qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. L'élection du prix Nobel de la paix 2019 s'est déroulée dans un contexte politique et humanitaire tout sauf apaisé. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans le conflit dans la région du Tigré et des centaines de milliers de personnes sont menacées par la famine, selon l'ONU. Au cri de « Nous sommes tous Kais Saied », plus de 5000 partisans du président tunisien sont descendus dimanche dans la rue pour appuyer le coup de force par lequel il s'est arrogé les pleins pouvoirs en disant vouloir sauver la Tunisie. Après 2 mois de vacances à la tête du gouvernement, le président tunisien a nommé la semaine passée une femme, Najla Boudène, pour former un cabinet. Signalons à ce sujet qu'un député et un présentateur d'une télévision considérée comme proche des islamistes ont été arrêtés après avoir, dit-on, critiqué la nomination de Madame Boudène, qualifiée d'alibi et de cache-misère pour masquer un coup d'État. Fumio Kishidi, 64 ans, a été élu ce lundi Premier ministre du Japon par la Chambre basse du Parlement et la composition du nouveau gouvernement de M. Fumio Kishidi était attendue dans l'après-midi. Les talibans ont affirmé lundi avoir neutralisé à Kaboul une cellule du groupe État islamique quelques heures après un attentat à la bombe contre une mosquée de la capitale afghane, dans lequel au moins 5 personnes ont été tuées. Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a annoncé qu'une cache abritant des éléments du groupe djihadiste avait été détruite et ses occupants tués dimanche soir dans le nord de Kaboul. Le président palestinien Mahmoud Abbas s'est entretenu tard hier soir à Ramallah avec une délégation israélienne, seconde rencontre officielle en environ un mois avec des membres du nouveau gouvernement israélien, ont indiqué des sources concordantes. Le caricaturiste suédois Lars Vilks, cible d'un attentat à Copenhague en 2015 et qui vivait sous protection après avoir dessiné le prophète Mohammed avec un corps de chien en 2007, a trouvé la mort hier en Suède avec les 2 policiers chargés de le protéger dans ce que la police considère comme un tragique accident de la route. Ici aux États-Unis, les autorités tentaient hier de contenir un écoulement d'hydrocarbures près des côtes de la Californie couvrant près de 34 kilomètres carrés et dont les dégâts sur l'environnement se faisaient déjà sentir. La marée noire, dont l'origine n'a pas encore été déterminée avec certitude, aura des conséquences irréversibles sur l'environnement, selon une responsable locale. De nombreux poissons et oiseaux morts ayant été retrouvés sur la côte. Huntington Beach est la localité la plus affectée. Les Corées du Nord et du Sud ont rétabli leurs canaux de communication transfrontalière, a annoncé Séoul ce lundi, après que Pyongyang les a coupés en août. La suite de nos informations, au Nigeria, des djihadistes d'une faction rivale à Boko Haram ont attaqué un camp de repentis selon l'armée nigériane. L'attaque a été repoussée, mais le bilan reste incertain. Précision de John Linden.
Des djihadistes affiliés à l'État islamique ont attaqué dans le nord-est un camp d'anciens combattants du groupe Boko Haram détenus après leur défection. L'attaque est survenue samedi dans la ville de Damboa, dans l'État de Borno, a-t-on appris hier auprès de l'armée. Plusieurs centaines de militants de Boko Haram et leurs familles se sont rendus au cours des derniers mois à la suite de la mort de leur chef historique en mai dernier. L'armée a indiqué dans un communiqué que les groupes avaient réussi à repousser les combattants de l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui tentaient d'attaquer le camp sans chiffrer le nombre de victimes. Pour les militaires, cette tactique dont la violence est employée par l'ISWAP pour décourager dans leur rang les terroristes ayant l'intention de se rendre. L'ISWAP a consolidé son contrôle dans la région du nord-est depuis la mort en mai d'Aboubakar Shekau, chef de Boko Haram. Mais des combats internes entre l'ISWAP et une faction pro-Shekau dans la région du lac Tchad ont fait de nombreux morts la semaine dernière, selon les sources sécuritaires et locales.
L'Algérie a de nouveau manifesté sa colère envers la France hier dimanche, en interdisant le survol de son territoire aux avions militaires français en partance pour le Sahel, après des propos qualifiés d'irresponsables prêtés au président Emmanuel Macron. Claire Morin-Gibourg.
L'Algérie a interdit le survol de son territoire aux avions militaires français qui empruntent d'habitude son espace aérien pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne où sont déployées les troupes de l'opération anti-djihadiste Barkhane, a indiqué dimanche un porte-parole de l'état-major français. Cette décision intervient dans un contexte de tension entre Paris et Alger qui a annoncé samedi le rappel immédiat pour consultation de son ambassadeur à Paris, exprimant son rejet catégorique de déclaration attribuée au président français Emmanuel Macron, évoquant notamment un système politico-militaire au pouvoir à Alger. Les relations entre Paris et Alger se sont fortement tendues ces derniers jours, alors qu'approche le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie et son indépendance.
Selon une nouvelle enquête du Consortium international des journalistes d'investigation, plusieurs dirigeants, dont le roi de Jordanie ou les présidents du Kenya et d'Équateur, ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale, Bagassi Koura.
Selon l'enquête baptisée Pandora Papers, le président kenyan Uhuru Kenyatta possède une fondation au Panama. Le plusieurs membres de sa famille directe possèdent plus de 30 millions de dollars logés dans des comptes offshore. Le chef de l'État kenyan a pourtant maintes fois affirmé sa détermination à lutter contre la corruption dans son pays et a obligé les officiels kenyans à la transparence quant à leur patrimoine. Près de 600 journalistes ont participé à cette enquête, décryptant plus de 11 millions de documents. Au total, des liens ont été établis par le consortium des journalistes entre des actifs offshore à la fiscalité avantageuse et 336 dirigeants et responsables politiques qui ont créé près de 1000 sociétés. Pour l'ONG Transparency International, cette enquête apporte une nouvelle preuve que l'industrie offshore fait, je cite, « le jeu de la corruption, de la criminalité financière » tout en faisant obstruction à la justice.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, le Conseil Café Cacao, organe de régulation de ces deux filières, a dévoilé vendredi à Abidjan le prix Borchan du kilo de cacao pour la campagne 2021-2022. Le prix garanti du cacao a été fixé à 825 francs CFA pour la campagne 2021-2022 contre 1000 francs CFA l'année précédente. Le prix du kilo de café, lui, augmente. Il passe de 550 francs CFA à 750 francs CFA. Sergio Pimenta, vice-président régional de l'IFC, membre du groupe de la Banque mondiale, est en visite au Sénégal du 4 au 6 octobre pour, selon leur communiqué, discuter comment l'institution peut soutenir une croissance tirée par le secteur privé. L'IFC veut œuvrer à la création de nouveaux marchés d'emploi en mettant l'accent sur les infrastructures, la santé, le logement, le tourisme, l'agro-industrie, l'économie numérique et l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. L'île Maurice a rouvert complètement vendredi ses frontières aux voyageurs internationaux, espérant relancer son secteur vital du tourisme, durement touché par des mois d'isolement en raison de la pandémie de Covid-19. Sur l'île, la nouvelle est accueillie avec un mélange d'optimisme, de soulagement et de prudence.
Merci Claire. Et maintenant les sports avec Élisée Onpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Page noire pour démarrer, Bernard Tapie est mort.
Oui, président mythique de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie est mort ce dimanche matin à 78 ans d'un cancer, a annoncé sa famille. Il a marqué le sport français de son empreinte, notamment à travers l'OM. L'histoire d'amour entre Marseille et Bernard Tapie débute en 1986. En 7 ans, il a fait de l'OM le meilleur club européen en le hissant sur le toit de l'Europe, à Munich devant le Milan, c'est le 26 mai 1993.
On reste en Europe pour parler du mondial de futsal avec le sacre du Portugal.
Tout à fait. La Seleção, entreprenante tout au long de la compétition, s'offre en finale l'Argentine, tenante du titre, score 2-1. Le Portugal devient ainsi champion du monde de futsal pour la première fois de son histoire. Le Brésil finit troisième après avoir battu 4-2 le Kazakhstan. À noter que le Maroc, seul représentant africain à passer le premier tour, finit huitième.
Sur le gazon africain, le Casasport remporte l'édition 2021 de la Coupe du Sénégal.
Le club de Casamance s'impose 1-0 en finale devant Diamba dans un stade La Diode de Thiès qui a fait le plein pour l'occasion. Une réalisation d'Aliou Diata en début du match. Casasport remporte ainsi sa troisième Coupe nationale de son histoire pour le plus grand bonheur de son entraîneur Ansou Diadiou, interrogé par Medine Si.
Depuis les demi-finales, nous avons vu un public, un Alekaza uni derrière son équipe. Donc pour nous remporter ce trophée, c'était une obligation parce qu'on n'est pas sans savoir que le Casasport est l'un des meilleurs publics, n'est-ce pas, pour le football sénégalais. Donc il ne fallait pas lâcher vraiment cette finale-là à l'adversaire. Cette victoire représente beaucoup de choses pour le peuple casamassé. Cette victoire représente beaucoup de choses pour l'union des cœurs pour Alekaza.
Déception côté Diamba, qui a encore raté l'occasion d'inscrire pour la première fois son nom au palmarès de cette compétition. Le club formateur va désormais se concentrer sur la Coupe de la Confédération où il affrontera au second tour les Nigérians d'Enimba.
Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, les 3e et 4e au programme cette semaine.
Oui, et certaines sélections publient déjà leur liste de joueurs qui vont prendre part à ces deux rendez-vous. Le cas de l'Algérie, Jamel Belmadi, le sélectionneur a appelé 25 joueurs pour la double confrontation face au Niger. On peut noter le retour d'Adam Ounas, l'attaquant de Naples, et Youssef Attal, le latéral de Nice. En revanche, pas d'Andy Delors pour la deuxième fois de suite, malgré ses performances avec le club niçois. Sinon, pour le reste, ce sont des habitués.
Autre liste publiée, celle de la RDC, qui pourra finalement jouer à Kinshasa.
Le stade des Matis, entre-temps suspendu, répond maintenant aux normes après quelques travaux aux conditions fixées. Les Léopards pourront donc recevoir Madagascar à Kinshasa. Un match important pour Hector Cooper, qui a retenu 25 joueurs pour cette double confrontation avec notamment le tour de Gaël Kakuta, blessé le mois dernier, mais appelé cette fois-ci. Les Léopards sont troisième de leur groupe après deux matchs nuls.
Merci Élisée. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, face à la troisième vague de coronavirus qui secoue le pays, le gouvernement accélère la riposte contre l'épidémie. Dès ce mardi, l'administration publique et les casernes militaires sont soumises à la vaccination obligatoire. Mais c'est une décision encore loin de faire l'unanimité. Précision de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
L'option d'une vaccination obligatoire pour tous contre le Covid-19 est déjà sur la table du gouvernement gabonais. Mais l'annonce du caractère contraignant de l'opération suscite déjà une contre-offensive des centrales syndicales de l'administration publique. Guy Patrick Mombo, délégué de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation.
Nous convenons qu'il y a danger et que le gouvernement estime qu'il y a danger. À partir de cet instant, que le gouvernement revienne au confinement en fermant toutes les administrations pour que chacun préserve sa vie dans sa maison. Puisque la vie est sacrée. Les enseignants optent pour la vie et non pour la mort. C'est pourquoi les enseignants ont dit non à la vaccination obligatoire, parce que nous voyons le gouvernement venir.
Pour une partie de la société civile, la troisième vague de l'épidémie est si redoutable qu'elle impose une vaccination de masse. Georges Mpaga milite pour une prise de conscience collective.
C'est une question de responsabilité morale. Je suis un leader d'opinion, un leader de la société civile. Donc, j'en appelle à une forte mobilisation pour que les Gabonais soient vaccinés. Elle vise aussi à lutter contre la désinformation. Des thèses complotistes sont véhiculées à travers les réseaux sociaux. Et cela est inadmissible.
Cet appel à mobilisation pour la vaccination retentit aussi dans les casernes militaires. Le général de division Yves Ditengou est chef d'état-major des armées gabonaises.
Certes, le président de la République avait annoncé une vaccination sur le volontariat, mais vous vous rendez très bien compte que pour la vocation et le métier des armes que nous avons choisi, il n'est pas question de volontariat.
La primature a récemment organisé une réunion d'urgence avec les ministres sectoriels pour annoncer le début de la vaccination dans les administrations publiques. Docteur Guy-Patrick Obiandan, ministre gabonais de la Santé.
Il y a tout un programme qui sera fait pour que la vaccination se fasse dans les différentes administrations et avec des équipes de vaccination mobile qui vont, sur la base du programme qui sera établi, sillonner les différentes administrations.
Depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Gabon, seules un peu plus de 100 000 personnes ont reçu leur première dose contre 78 000 personnes pour la seconde dose, soit un taux de près de 4% de la population vaccinée, bien en deçà des projections du gouvernement qui vise la barre de 60% de la population vaccinée afin de lever les restrictions sanitaires en vigueur dans le pays depuis plus d'un an. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Les tensions entre le Mali et la France se sont aggravées ces dernières semaines. Une guerre des mots entre Paris et Bamako a semblé jeter plus d'huile sur le feu. L'on craint désormais une rupture du dialogue entre les deux parties avec l'arrivée éventuelle des Russes au Mali, que la France déplore. Pour les perspectives dans la crise malienne, Jean-Roger Bion a joint à Paris l'analyste et géopoliticien Max Sommet.
Je ne pense pas qu'il faille surinterpréter ces échanges d'amabilité entre le premier ministre de la transition malienne et le président français. Chacun parle d'abord à son opinion publique intérieure, mais également aux partenaires des deux parties. Car il ne faut pas l'oublier, il ne s'agit pas d'un tête-à-tête entre Bamako et Paris. Notez les échanges d'amabilité entre les autorités maliennes et nigériennes également. Cela dit, sur le terrain de la coopération entre Barkhane et les FAMA se porte bien, comme le démontre le bilan des opérations conjointes publiées par l'armée française, mais également la communication du chef d'état-major de la 5e région militaire. Donc, je pense que tout cela, c'est une tempête dans un verre.
Le président français Emmanuel Macron a pour la première fois attaqué frontalement le chef du gouvernement malien. Il est à craindre, M. Sommet, que l'on ait atteint là un point de non-retour. Qu'en pensez-vous?
Macron sait très bien que Choguel Maïga n'est qu'un premier ministre de transition. Donc, quelles que soient les prolongations qu'ils vont faire au niveau de la transition, ce ne sont que les autorités de transition qui vont passer. Au bout de 8 ans d'une stratégie qui a été réajustée après le sommet de Pau, si ça ne va toujours pas, c'est Einstein qui disait que la folie, c'est de faire continuellement la même chose en espérant avoir un résultat différent. Il est normal que la France essaye de tirer des leçons de ces 8 années de guerre antiterroriste au Mali et réadapte son vie politique. Et puis, il ne faut pas oublier que le naufrage américain en Afghanistan après 20 ans de guerre et avec des moyens sans commune mesure avec ce que la France peut mobiliser au Sahel, ça aussi, ça fait réfléchir à Paris.
La pomme de discorde aujourd'hui, dans cette crise franco-malienne, c'est inéluctable. La Russie avec la compagnie Wagner. Est-ce une équation insoluble pour les deux parties?
J'observe que la France ne s'est pas opposée aux achats d'armes et d'hélicoptères de combat russes par le gouvernement malien, tout comme le gouvernement ivoirien. Elle ne s'est pas opposée aux accords de défense du Mali avec la Russie, ni de ceux du Burkina Faso avec la Turquie. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est le plausible deniability de la Russie avec le groupe Wagner. La Russie ne reconnaît pas l'existence de Wagner, qui est d'ailleurs immatriculé au Panama, et n'emploie pas que des mercenaires russes. Or, tout le monde connaît la proximité entre son patron, l'oligarque russe Evgeny Prigojine, et le président Poutine. On connaît leurs agissements au Soudan, au Mozambique et surtout en Centrafrique. La Russie aura toujours beau jeu de nier toute responsabilité en cas de problème avec Wagner au Mali. Mais la France et l'Union européenne, avec elle, à cause de la force Takuba et de l'UITM, la mission de formation de l'Union européenne au Mali, sera accusée de n'avoir rien fait alors qu'elle était là et ne pouvait pas ignorer ce qu'il se passait. Or, dans la configuration voulue par les autorités maliennes, la France ne pourra pas agir contre Wagner au Mali. C'est dans ce piège qu'elle ne veut pas tomber. Elle a retenu la leçon du génocide rwandais pour lequel elle a dû présenter récemment ses excuses au Rwanda.
C'était le regard de l'analyste et géopoliticien Meg Sommet sur les derniers développements de la crise malienne.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Ce matin, notre correspondant au Cameroun prend la route en direction de la région du Sud, région d'origine du président Paul Biya. Ici, les populations réclament de meilleures routes ainsi que l'accès aux réseaux électriques et téléphoniques. Situées sur l'axe Ebolova à Komde, elles ont barricadé ce tronçon en fin de semaine dernière pour exprimer leur ras-le-bol. Se déplacer actuellement d'Akom 2 à Kribi ou Ebolova relève du parcours du combattant. Reportage à la gare routière Ebolova Akom 2 avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Tap.
Nous sommes à la gare routière Ebolova Akom 2, à plus de 155 km de Yaoundé. Le soleil s'est à peine couché que 12 passagers sont sur le point d'entamer un long voyage. La voiture qui les amène vers Akom 2 doit normalement porter 5 passagers. Mais 7 autres sont juchés sur des bagages empilés dans l'arrière du véhicule sous la menace des intempéries. Des passagers tous mécontents.
On va faire comme on n'a pas de choix. Il y a ceux qui tombent même.
Au niveau de l'océan, pleure à Ijo.
Je suis habitant de Nerfou. Je n'ai ni téléphone, ni courant, ni point d'eau, ni route. Regardez comment les véhicules qui chargent pour aller à Komdou. Ça ne pas encore où dans le Cameroun.
Daniel est le chauffeur qui effectue ce voyage.
À l'heure que je quitte pour Komdou, il va arriver autour de 1 heure, 2 heures.
Ça veut dire que vous faites combien d'heures de voyage?
5 à 6 heures de temps.
Normalement, si la route était goudronnée, ça met combien de temps?
Mathieu, 1h30.
L'agence Question de Temps Voyage est la seule qui dessert la localité d'Akom 2 à partir de Bolova au prix de 3000 francs CFA par passager.
Pour nos passagers souffrent également.
Guette Messina est caissière de la dite agence.
Nos passagers sont obligés de descendre et construire eux-mêmes les ponts à main. On ne gagne rien. Quelqu'un achète son véhicule ici, là, tu fais un aller-retour où tu gagnes par exemple 50, mais tu peux dépenser 60 ou 70 000 au garage.
Hormis le tronçon Akom 2 et Bolova, celui reliant Akom 2 à Kribi est devenu lui aussi impraticable. Une commerçante des vivres raconte.
S'il faut faire le marché, c'est à Kribi que nous devons nous ravitailler. Ça fait déjà une semaine, 2 mois que la voiture de Kribi n'entre même plus.
La semaine dernière, les populations en colère ont abattu des arbres, démonté les ponts le long de la route reliant Akom 2 à Ebolova. Ce mouvement d'humeur a eu comme point de départ le village Mvila, les autorités administratives, les forces de sécurité et de défense et certaines élites de la région du Sud sont descendues sur le terrain pour une médiation. Jean-Paul Meba témoigne.
Donc la situation avait généré des appels téléphoniques et le ministre devait donc descendre parce que les enfants étaient décidés que si rien de tout ce qu'ils ont réclamé n'est fait dans les délais, eux, ils vont maintenir leur grève parce qu'ils en ont déjà trop supporté.
Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Esomba, a annoncé au lendemain de ces incidents le déblocage de 200 millions de francs CFA pour la réhabilitation du réseau électrique défectueux. Quant à la route à goudronner, entre Ebolova, Akom 2 et Kribi, une source au ministère des Travaux publics rappelle qu'une entreprise italienne s'est vue confier le projet en 2020, estimé à plus de 123 milliards de francs CFA. Les travaux lancés en 2020 piétinent toujours. Emmanuel Juntap, de retour de Bolova, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En République centrafricaine, le gouvernement reconnaît des violations des droits humains commises par des militaires centrafricains, leurs alliés russes, mais aussi par des rebelles de la CPC. C'est la conclusion de l'enquête spéciale ouverte depuis le mois dernier, suite à un rapport de la MINUSCA. La mission de l'ONU a dénoncé des dizaines de violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international attribuées à l'armée et à ses alliés russes. La publication de ce rapport est une avancée significative selon certaines organisations des droits de l'homme. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Après 5 mois d'enquête, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a présenté le 1er octobre un résumé de ce rapport. Selon le gouvernement centrafricain, sur 103 violations dénoncées par la MINUSCA, 23 cas ne sont pas avérés. Cependant, certaines violations ont été effectivement commises par des forces nationales, leurs alliés russes et les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement CPC. Arnaud Djoubaï Abazen, ministre de la Justice.
Il s'agit des infractions suivantes. Exécution extrajudiciaire pendant la guerre asymétrique et injuste déclarée par la CPC, arrestation et séquestration arbitraire, actes de torture, de traitement dégradant et inhumain, occupation des édifices publics, des écoles, des hôpitaux et des lieux de culte, entrave aux ONG internationales humanitaires d'exercer leur mission.
Selon les résultats de cette enquête spéciale, la majeure partie de ces exactions a été commise par les rebelles de la CPC. Ici, quel est le sort réservé aux militaires centrafricains, leurs alliés russes et les rebelles de la CPC? Responsable de ces exactions, le ministre de la Justice répond.
Ces cas font déjà l'objet de poursuites judiciaires pour certains devant les juridictions militaires, notamment le tribunal militaire et la cour martiale de Bangui. Pour d'autres cas, les juges d'instruction sont saisis pour la traduction des présumés auteurs devant les juridictions de droit commun, des sessions criminelles et étant prévu pour les prochaines semaines. Les faits reprochés aux forces d'appui, notamment les instructeurs russes, sont en train d'être documentés pour la saisine des juridictions de leur pays. Il a été relevé que des 103 incidents, la majeure partie est imputable aux rebelles de la CPC. Comme pour les FACA, certains sont déjà sous poursuite devant les juridictions de droit commun et seront jugés lors des prochaines sessions criminelles. D'autres cas plus graves seront déférés devant la Cour pénale spéciale et ou la Cour pénale internationale.
Plusieurs enquêtes ouvertes dans le passé en République centrafricaine n'ont jamais eu de résultat. Celle-ci est à encourager selon Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Pour l'une des premières fois, nous avons eu une enquête qui nous a donné des résultats. Donc il faut féliciter le gouvernement qui a ouvert cette enquête. On a relevé du côté des forces armées centrafricaines, du côté de leurs alliés, des fautes. Au moins pour une fois, le gouvernement reconnaît que j'ai envoyé des gens sur le terrain. Ces gens que j'ai envoyés sur le terrain avec des règles d'engagement précis n'ont pas fait le travail que je souhaitais et ils ont commis des dérapages qui ont été des actes constitutifs de fautes.
Le rapport tient par ailleurs la CPC, responsable du meurtre d'au moins 12 civils le 21 juillet dernier, non loin de Bossangwa, dans le nord de la République centrafricaine. Exaction imputée à l'époque aux insulteurs russes. La publication de ce rapport met ainsi fin à plusieurs mois de questionnements sur les dénonciations faites par la MINUSCA et l'ONG américaine de Saint-Louis sur les exactions commises par l'armée, ses alliés et les groupes armés en Centrafrique. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, Claire Morin-Gibourg avec vous, l'argent au sein du couple, la gestion des revenus ou des salaires et parfois source de tensions au sein des familles. Quelle est votre situation? Les discussions autour du budget familial sont-elles difficiles? Et trouvez-vous facilement un terrain d'entente? Avez-vous des comptes communs ou séparés? Pourquoi? Comment gérez-vous les achats quotidiens, les frais de scolarité de vos enfants? Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique ou venez en discuter en direct dans À votre avis à 18h05 temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. À votre avis, c'est tous les jours à 18h05 temps universel sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Georges Léonard Sagno à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.